Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de l'homme qui vient du pays du grand froid, n'est-ce pas? C'est Mamie Lamy.
Salut tout le monde.
Je précise qu'il a fait de grands efforts pour être avec nous aujourd'hui, il s'est levé à 8h du matin.
Il a du café en intraveineuse, là.
Oui, à peu près, oui.
Bilbo Baggins est son premier fan. C'est Morbren.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du Kickstarter de Bedlam. Nous évoquerons du changement du côté de la franchise Assassin's Creed.
Enfin, du changement, faut le dire vite, hein.
Oui. Des changements également du côté de Steam, cette fois un peu plus important, notamment en ce qui concerne le store, n'est-ce pas, qui a été relifté et propose de nouvelles fonctionnalités. Blizzard, ils ont annoncé la fin du projet Titan, cet énorme projet qui apparemment promettait beaucoup de choses, et heureusement que ça s'est arrêté parce que ça avait l'air d'être la grosse merde. Sans oublier notre jeu du moment, c'est un jeu testé par, attention, Mamie Lamy sur 3DS, et oui, car Mamie Lamy a acheté une 3DS. Par contre, désolé, Herman, toujours pas de New Nintendo 3DS. Tu n'auras pas ton unboxing, j'en ai bien peur, même si j'essaie encore une fois de convaincre Mordren, hein, mais il fait de la résistance, le pauvre, mais je
n'ai toujours pas reçu ton virement, en fait, donc moi j'attends.
Ok. Donc, c'est parti. Nous allons commencer ce sommaire de l'actualité avec Bedlam. Alors Bedlam, qu'est-ce que c'est ? Bedlam, c'est un jeu post-apocalyptique sur Kickstarter. Ça ressemble à du RPG tactique mélangé avec du Faster Than Light. Et donc, le concept est intéressant. La direction artistique déchire pas mal. Par contre, j'ai deux bémols. Le premier, c'est que ils ont prévu un early access, comme à peu près tous les Kickstarter maintenant, vous me direz. Et le second, c'est que, comment dire, leur game designer, ma foi, j'ai vu la liste de jeux qu'il a fait, ça n'a pas l'air très convaincant. Hein. Donc, j'attends de voir, parce que pour le moment, en gros, les personnes les plus intéressantes, dirons-nous, dans cette boîte, ce sont ceux qui viennent de chez Virgin Games, hein, Darksiders, tout ça. Mm-hmm. Et ces personnes-là, on va dire, ce sont surtout des artistes. D'ailleurs, ça se voit sur le Kickstarter. Donc, ouais. Ma foi, j'attends de voir. C'est un Kickstarter qui est très prometteur. En ce sens aussi qu'au niveau de l'aspect tactique, il propose, grosso modo, des nouveautés qui ont l'air assez intéressantes, notamment le fait que ce n'est pas vraiment du tour par tour, en ce sens que certes l'ennemi jouera après vous, mais par contre vous pourrez faire jouer n'importe quel personnage plusieurs fois de suite en fait. C'est pas, il y a pas un ordre des personnages, c'est vous qui choisissez un peu comme aux échecs que les pièces vous allez bouger et vous pouvez choisir la même pièce plusieurs fois de suite en fait. Donc voilà, moi je sais pas ce que tu en penses, mais en vrai, de ma foi, j'ai cru comprendre que tu avais l'air assez appâté toi aussi.
Ouais, je suis appâté parce que forcément quand on cite en accroche des jeux d'inspiration comme FTL, XCOM et Banner Saga, bon, je me dis que il y a peut-être quelque chose derrière. Alors il faut savoir que le jeu a été créé avec le moteur du jeu The Banner Saga. D'où sa son esthétique assez intéressante en 2D avec du joli pixel magnifique et des sprites bien animés. FTL aussi pour le petit côté exploration aléatoire et roguelike, et puis XCOM a priori pour le système de combat qui, je dois être honnête quand même avec vous, m'a l'air un peu mystérieux pour l'instant. Alors je sais pas exactement si toi t'as mieux compris que moi, Thierran, mais
bah, c'est du jeu d'échecs en fait.
Ouais,
tout simplement. Alors par contre le rapport avec XCOM, là je t'avoue je cherche encore.
Hein. J'imagine que ça doit être la permadeath.
Ah oui, peut-être oui, mais bon s'il suffit de faire la permadeath pour faire du XCOM
et puis le jeu en escouade probablement.
Mmh. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est intéressant parce que, en fait, contrairement, par exemple, tu sais, à Faster Than Light où les compagnons que tu trouvais au fur et à mesure de l'aventure, c'était en quelque sorte des pièces de, enfin voilà quoi, c'était pas des personnages avec une vraie personnalité quoi.
Oui.
Là, l'idée, c'est vraiment d'ajouter une histoire, une ambiance, des personnages travaillés, au concept de Faster Than Light, et moi ça m'intéresse en tout cas. Mamie, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ben, franchement, c'est... Il me parle pas du tout. C'est, il me parle pas du tout. Le peu d'images qu'on en a, c'est effectivement des écrans de jeu. Moi, ça me fait un peu peur. Et puis le gameplay m'a pas l'air fou pour l'instant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est moi, je cherche dans les jeux comme ça qui sont pas mes jeux de prédilection. Je cherche toujours un truc un peu nouveau quand même. Puis là, je sais pas, ça m'a pas l'air complètement énorme et novateur, si tu veux. Donc, par contre, il est beau. Voilà.
Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect joli qui entre en ligne de compte, parce que c'est-à-dire que là, tu parlais d'histoire tout à l'heure, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose dans cette histoire. C'est-à-dire que
ambiance, en fait. Hein,
plus oui, voilà, parce que là, concrètement, ce qu'on sait sur l'histoire, c'est il faut aller d'un point A à un point B, et sauf que entre les deux points, bah, il y a des choses qui sont aléatoires et qui seront dangereuses.
Et il y aura des points d'intérêt. Tu choisiras d'attaquer ces points d'intérêt ou pas pour récupérer des trucs. Ouais. Moi, il m'intéresse aussi sur le plan du gameplay, attention. Hein. Ouais. Le fait que tu es vraiment, contrairement à Faster Than Light, tu sais, où t'arrives sur un truc, tu choisis, alors il y a telle station spatiale qui est en train, limite, d'exploser. Est-ce que tu prends le risque d'y aller? Et si tu prends ce risque, on fait un jet de dés, on regarde si t'as réussi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que tu arrives, tu observes le point d'intérêt, tu pèses les risques. Et ensuite, c'est toi qui agis, c'est pas un jet de dés, quoi, si tu veux.
Ouais. Et à noter aussi que ces points d'intérêt, en fait, plus l'action que vous devrez mettre en place est dangereuse, plus vous aurez des récompenses intéressantes. Donc, il y a toujours, faudra toujours peser le pour et le contre de ce côté-là. Et ça peut être assez intéressant dans un run.
Ouais. Parce que comme il y a de la permadeath aussi, et que contrairement à Faster Than Light, les personnages, entre guillemets, ne sont pas, enfin, tu peux pas tuer tes personnages comme ça, quoi, en gros, si tu veux. Même si dans Faster Than Light, attention, je dis pas que tu peux faire ça comme ça non plus. Mais
ça
disons que
vite,
tu peux assez facilement retrouver des membres d'équipage. Et là, moi, de ce que j'ai compris, c'est que, en gros, vraiment, va falloir faire gaffe, quoi. Chaque membre d'équipage a son importance, et en perdre un, ça sera vraiment très pénalisant, quoi. De ce qu'ils ont l'air de dire. Donc, après tout ça, c'est du papier, évidemment, hein, faudra voir dans les faits. Et encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est que derrière, on te fait un early access et que si ça se trouve, le développement va durer 1000 ans et à la fin, t'auras pas grand-chose, quoi. Ouais. Donc, faut voir. Mais honnêtement, après, c'est vrai que la direction artistique, c'est ça qui m'a appâté au départ, parce que je la trouve sublime. Enfin, j'adore ce genre de design. Mais aussi sur le plan du gameplay, moi de toute façon tu me parles de deux genres que j'adore, tu mélanges du Faster Than Light et du RPG tactique, bon, voilà, avec la permadeath en plus par-dessus le marché, ça m'intéresse forcément. Voilà. Ouais.
Moi j'aurais juste un bémol pour terminer, c'est la vidéo de présentation, elle est très très courte, et on voit pas grand chose du jeu en fait, on le voit jamais en action en réalité, en dehors de quelques secondes dans la vue tactique. Et c'est à peu près tout. Et moi, j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus dans le détail de ce que c'est qui va faire le gameplay en fait de Bedlam. Et c'est pour ça que moi, pour l'instant, j'ai pas forcément l'intention de backer. Mais bon, je reste encore assez curieux sur ce projet.
Ok. Bon, on va maintenant vous causer de Assassin's Creed, n'est-ce pas? Alors oui, il y a du nouveau du côté de la franchise Assassin's Creed. Alors attention, du nouveau à prendre avec des pincettes, car de ce que j'ai compris, en fait, cette news vient d'un site japonais, n'est-ce pas ? Il se trouve que je ne lis pas le japonais, que je n'ai donc pas possibilité de vérifier cette information. Mais bref, peu importe. En gros, ce qu'on a appris, c'est que les prochains Assassin's Creed ne seraient plus numérotés. Et moi, pourquoi j'ai décidé de parler de cette news cette semaine, c'est parce que je me posais cette question, à savoir, eh bien, est-ce que tout simplement ça ne veut pas dire que bon, la méta-histoire s'en fout un peu et que voilà, bon, maintenant on mettra plus des numéros, comme ça vous ne ferez plus chier avec la méta-histoire.
Oui et non. Enfin, il y a de ça. C'est sûr. Après, je pense que c'est aussi à partir du moment où tu dépasses le chiffre 5 dans une série de jeux vidéo, tu commences à être bien, enfin tu fais bien partie des meubles, quoi. Donc c'est pas pour rien que c'est pas Assassin's Creed 5 Unity, mais Assassin's Creed Unity. C'est qu'il y a, à mon avis, quand tu dépasses ce chiffre-là, il y a quelque chose qui se passe. Genre, bon, il y a à peu près que les Final Fantasy qui se permettent ce genre de fantasy. Oh, oh. Et les
oh mon dieu, je vais mourir après cette blague.
et les FIFA et les PES, quoi. Et tous les titres d'Electronic Arts. Donc, bon, je pense que Ubisoft aussi a cette histoire d'arrêter assez rapidement les chiffres. Sur Rayman, par exemple, bon, Far Cry, ils ont toujours pas arrêté, mais ça a pas tardé à mon avis. Genre Splinter Cell, pareil, il y a jamais eu de chiffres. Ils ont cette habitude en fait d'avoir des sous-titres sur leurs jeux, et je pense que ça va être quelque chose qui va se généraliser à mon avis dans le jeu vidéo, parce que dans une licence qui est industrialisée et qui est publiée en fait tous les ans. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Quand t'arrives à Assassin's Creed 16, tu te dis que... Ah ouais, ça fait 16 ans qu'ils nous en vendent un tous les ans. D'autant plus quand on nous en vend deux par an, en fait. Parce que cette année, il y en a deux. Et aucun des deux n'a deux chiffres. Donc c'est pas pour rien, quoi.
Quelque chose à ajouter, mamie?
Bah non, Mandrin a tout dit. Moi, je pensais que c'était juste au niveau du fait qu'ils en sortaient un, voire maintenant deux par an. Sans compter les potentiels épisodes portables, etc. Donc non, c'est à mon avis, c'est pour ça. Par contre, si je nuancerais sur un propos, c'est le fait que le jeu vidéo va prendre le penchant de plus mettre de chiffres. Je suis pas certain là-dessus. Mais à part ça,
enfin, ça dépend les licences à mon avis. Mais après, il faut pas que ça devienne une tendance à titre à rallonge, quoi.
Bah, parce que le chiffre permet quand même d'identifier facilement d'une part la série et d'autre part où t'en es dans la série, donc
il y a de ça, mais tu vois, après si tu prends le cinéma, on s'en passe facilement. Tu regardes les films Marvel par exemple, c'est pas Thor 2, hein, c'est Thor Monde des Ténèbres, c'est pas Captain America 2, c'est Captain America le Soldat d'Hiver, machin. Bon, les gens savent quand c'est lié à une licence où à peu près ça se situe, j'imagine. Enfin, en tout cas, quand tu suis une série. Après, le fait est que maintenant, dans Assassin's Creed, les jeux seront de moins en moins articulés les uns avec les autres. En tout cas, sur les Assassin's Creed canoniques. Donc, finalement, ça n'a pas vraiment d'importance d'avoir un chiffre qui, de base, quand t'as un Assassin's Creed 1, 2, 3, tu te dis, bah, le premier, il se déroule forcément avant, alors que ça sera pas forcément le cas à l'avenir dans les futurs Assassin's Creed.
Oui.
Et puis, j'ai envie d'ajouter, regardez Assassin's Creed 4, quoi. Je veux dire, en termes de méta-histoire, y a rien, quoi. Donc bon, à quoi bon, dans ce cas-là, garder la numérotation quelque part aussi? Et puis par ailleurs, bon, moi je pense que en fait ce qu'ils veulent faire avec Assassin's Creed, c'est une série historique quelque part, une série où voilà, tu vas visiter la France, tu vas visiter le Japon, finalement au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait le cœur de l'intérêt de la série, c'est que tu visites différentes époques.
Ouais. Effectivement. Bah après, faudra voir ce que donne Unity, hein, mais pour moi, Unity, c'est l'Assassin's Creed canonique de cette année. C'est pas... Comment il s'appelle l'autre ? Rogue ?
Rogue.
Voilà, celui-là, c'est un Assassin's Creed annexe. C'est Unity, le vrai Assassin's Creed de l'année.
Mamie, tu voulais ajouter quelque chose, je crois ?
Non, je disais juste que bon, je n'ai toujours pas fini Rogue, donc je peux pas trop te dire.
Rogue ou Black Flag ?
Même pas Black Flag, Revelation.
Ah oui.
Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, ouais. Et il est resté coincé en 2011, mamie.
Oui, c'est ça. Donc, c'est parce que je commençais déjà, ça sentait déjà un peu le pâté, si tu veux, 3 Assassin's Creed d'affilée, j'ai pas eu le courage de tous les faire.
Ouais.
Et puis, depuis, ça n'a pas vraiment changé. Mais,
moi, je suis resté à Black Flag, par exemple.
Ouais, bah voilà. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, oui, c'est vrai que la méta-histoire, à mon sens, dès le départ, était un prétexte, et puis c'est tout, hein. C'était le hub au départ, c'était le hub pour aller d'une mission à l'autre, donc,
oui.
Et puis, ça a été tellement bien écrit qu'on sent que, voilà, c'était pas le but principal, parce que Ubisoft sait faire quand même des histoires quand il veut, et, voilà, il voulait pas, donc. C'est vrai que, voilà, moi, ça m'embêterait pas, si tu veux, même qu'on supprime l'animus, carrément. de l'histoire, hein. On sait que c'est dans l'animus parce que ça c'est un prétexte pour le hub de leur, enfin l'affichage tête haute et tout, mais à part ça.
Oui, enfin si tu enlèves l'animus à Assassin's Creed, en fait tu lui enlèves sa spécificité parce que ça lui, dans Assassin's Creed, l'animus apporte tout cet aspect esthétique original en fait.
Ouais.
De la série, dans le sens où tous ces trucs un petit peu technologiques qui apparaissent, les zones bloquées, tu sais pas pourquoi, bah parce que c'est l'animus, t'as pas encore machin cette mémoire. Si t'enlèves ça, en fait la série Assassin's Creed devient une série historique, ce qui n'est pas encore le cas, mais ça va peut-être venir. Je sais pas, ça m'étonnerait qu'on efface totalement l'animus de la série.
Ah non, mais je sais, sans l'effacer, mais puis en parler, parce que c'est maintenant, si tu veux, c'est admis. Oui. Voilà, ça fait tellement partie de la série, justement, que c'est admis. C'est au final, Assassin's Creed, au début, t'es pas censé être une série historique, ça se sent, parce que y a pas énormément de documentation dans le premier sur l'époque, etc.
Ouais.
Mais à partir du 2, c'est, à mon avis, c'est clairement un biais qu'ils ont compris vite. C'est que ça pouvait être intéressant, et c'est là où c'est bien d'ailleurs, Assassin's Creed, c'est l'un des gros points forts. C'est son encyclopédie à chaque coup qui permet à tout un chacun de chercher un peu.
Et puis, hein, ne pas oublier le départ de Patrice Désilets qui, à ce niveau-là, a quand même dû pas mal changer les choses. Hein. Voilà.
Oui.
Bon, messieurs, je vous propose de passer à la suite.
Mm-hmm.
Yep.
Nous allons maintenant parler des gros changements qu'il y a eu récemment sur Steam. Et oui, car Steam a fait peau neuve cette semaine. Outre le design, n'est-ce pas? Nous avons eu notamment le droit à l'arrivée de ce qu'on appelle les curateurs. Mon Dieu, quel terme horrible. Et donc, ces curateurs, mon cher Morren, ce sont des personnes, je crois, qui sont chargées de faire le tri. Mais déjà, je sais pas pour toi, mais je trouve que le terme est un peu curieux en français.
Alors en fait le mot curator en anglais c'est un conservateur de musée en fait, c'est un programmateur de festival.
Ah oui, mais même en anglais ça paraît pas très judicieux du coup.
Bah si, dans le sens où ce sont des gens qui ont l'approche critique nécessaire pour mettre en place en fait un système, une programmation intéressante pour les usagers. Donc ce qui fait que forcément si les usagers ont conscience des programmateurs qui ont le plus d'affinité avec eux, c'est des gens que vous allez suivre. J'ai remarqué par exemple que le premier curateur entre guillemets suivi en ce moment sur Steam, c'est Total Biscuit, qui a plus de 200 000 followers, on va dire. Donc c'est que clairement il y a des gens qui se lient en fait avec son approche critique et quelque part qui lui font confiance pour faire les bons choix et pour avoir une approche qui est non biaisée, on va dire, sur les jeux. Donc, bon, c'est pas étonnant que ça soit Total Biscuit, d'ailleurs, qui soit le premier à être suivi en ce moment. En tout cas, en anglais, le mot a du sens. En français, ça a été traduit par Google, en fait. Donc, forcément, ça n'a aucun sens, d'un coup. Mais l'idée est là. Après, je pense qu'ils se refusent à appeler ça des critiques.
Et pourtant, c'est exactement ce que c'est.
Oui, c'est même moins que ça. C'est des recommandations, en réalité. Bon, après, on peut parler, effectivement, de ce qu'il y a derrière ce système-là, ce qui fait que, en fait, c'est toutes ces recommandations que les gens vont pouvoir suivre ou non donnent de la visibilité à un certain nombre de jeux et en enlèvent à certains autres. C'est là que ça devient intéressant, c'est que, finalement, c'est un petit peu la communauté qui fait la visibilité de certains jeux.
Ouais, et puis bon, je veux dire, au-delà des critiques professionnelles, donc maintenant qui ont leur page, voilà, sur Steam, moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est le fait que on a le retour des nouveautés.
Ouais.
C'est-à-dire que désormais, les nouveautés s'affichent par défaut, et ce sont les nouveautés les plus populaires, donc ce sont celles qui sont les mieux notées qui y apparaissent, et ça c'est très bien justement pour les gens qui comme moi aiment bien fouiller sur Steam, c'est vraiment très très agréable. D'ailleurs, il y a eu pas mal de changements en vrai sur la page d'accueil, notamment maintenant malheureusement j'ai envie de dire qu'il faut scroller pour arriver jusqu'aux nouveautés, et ça c'est le truc qui m'a, enfin voilà quoi, ça m'a pas mal gonflé. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu tous les nouveaux encarts qui sont arrivés sur cette page d'accueil de Steam?
Alors sur le slider, en fait, la première chose que vous voyez sur Steam maintenant, quand vous arrivez dans sur la une, vous allez en fait avoir une espèce de panaché entre des recommandations qui sont personnalisées pour ce que vous avez dans votre bibliothèque, ce que vous avez déjà recherché, et donc du coup Steam garde un petit peu tout ça en mémoire. Donc par exemple, moi, vu que je suis à fond sur les jeux de survie en ce moment, bah il y a que ça dans ma une, mais il y a aussi les jeux populaires en ce moment, les jeux qui viennent d'être mis à jour, les jeux qui sont en offre en ce moment. Du coup, on a un espèce d'algorithme qui fait que vous avez un Steam qui se met à votre service, on va dire, dans le sens où il va faire un panaché des recommandations que vous suivez, de ce que vous avez recherché et pas forcément encore acheté, de ce que vous avez déjà acheté. Mais après, il peut y avoir aussi enfin, quelque chose d'un peu pervers derrière ça, c'est-à-dire que, mettons, moi, j'adore les jeux de survie. J'ai acheté tous les jeux de survie que j'ai trouvé intéressants. Ça veut dire que les seules recommandations que Steam va pouvoir me donner, c'est les jeux de survie que moi, je trouve pas intéressants.
Bah oui.
Et que j'ai pas acheté. Et ça, c'est là qu'on peut arriver à un problème, en fait, dans cette mise à jour des découvertes de Steam. C'est que, Steam, il va se dire, ah oui, mais là, le développeur a coché tel genre de jeu. Je vais lui proposer ça, puisqu'il a l'air d'aimer ça. Mais du coup, il va falloir aussi faire attention et dire, voilà, je suis pas intéressé par ce jeu-là, pour qu'il disparaisse et que ça fasse un vrai filtre. Parce que là, pour l'instant, c'est des filtres qui sont très très larges, donc c'est aussi à vous de faire en sorte que cet outil soit plus approprié à votre utilisation de Steam, quoi.
Ça, plus le fait que moi je regrette, par exemple, je le faisais remarquer tout à l'heure, ça m'énerve de devoir scroller pour arriver jusqu'aux nouveautés. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire gicler les différents encarts et les placer où je veux, par exemple? C'est dommage d'avoir mis certains éléments customisables, entre guillemets, pour ne pas mettre ce genre de fonctionnalité. Et ce d'autant plus que, bon, voilà, moi je les aime bien, mes nouveautés, tu vois, les recommandations, ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse sur Steam, c'est, voilà, je regarde tout ce qui vient de sortir, là. Ah, tiens, ça a l'air intéressant, tiens, ça a l'air intéressant. Et je fais mon petit marché, comme ça, sur Steam. Bon, voilà. C'est dommage. Sinon, à part ça, on a aussi eu des retours des développeurs. Et je crois savoir, mon très cher Moran, que, a priori, au vu des premiers chiffres, ils sont assez satisfaits, n'est-ce pas?
Oui. Alors, c'est les développeurs de Insurgency qui ont noté en fait la performance derrière cette mise à jour de Steam, en fait, sachant que donc ça a été lancé lundi dernier, et donc le dimanche, donc la veille, leur page du magasin a été vue près de 6000 fois, et le lendemain elle a été vue 21500 fois, et le surlendemain, donc le mardi, elle a été vue 83000 fois. Et là, on a un autre son de cloche assez intéressant, c'est les développeurs de Zeboid Games, qui sont les créateurs de Breath of Death 7 et Cthulhu Save the World, qui disent en fait que 25% de leur trafic sur leur page du magasin a été obtenu grâce aux pages de recommandation, donc aux curateurs.
Ah oui, c'est pas négligeable. Hein.
Et c'est là qu'on se dit que oui, effectivement, ça peut changer des choses, quoi. Bon. Après, il faut faire gaffe aussi à ce que les recommandations, ça devienne pas de la merde aussi, parce que, bon, tu peux tricher aussi là-dessus, hein.
Ouais, d'ailleurs, pour moi, il y a des soucis déjà, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais chez un certain nombre de curateurs, on a, entre autres, des jeux qui sont en Early Access. Et pour moi, ça, c'est un vrai souci, parce que comment peut-on mettre sur un pied d'égalité des jeux qui ne sont pas finis et qui, si ça se trouve, ne seront jamais finis et qui, en plus, ne seront jamais remboursés par Steam en cas de souci, enfin, sauf s'ils sont d'humeur, parce que ça, c'est encore un truc de Valve à géométrie variable, n'est-ce pas? Comment on peut mettre ces jeux-là dans des listes de recommandations, alors qu'à mon sens, au minimum, il faudrait que ces listes de jeux en early access soit séparé des recommandations, et pour moi ça ne devrait même pas être des recommandations, ça devrait être des critiques, en fait. Il y a ça comme souci avec le jeu, voilà, maintenant vous êtes prévenus, faites attention, on rappelle les risques du... voilà quoi. Enfin bref, Mamie, Je vais me tourner vers toi maintenant, parce qu'après tout, tu es un des premiers intéressés. Que penses-tu de ces nouveautés?
Non, bah, moi, j'aime bien System. J'aime bien System, mais sans entrer, comment dire, dans le détail ou quoi que ce soit, c'est un filtre que c'est les bons, enfin, théoriquement, c'est les bons jeux qui vont être mis en avant.
Oui, parce que mamie, je te rappelle le cas Daisy, n'est-ce pas? Ça fait un moment qu'il est en tête des ventes, alors que bon jeu, ça se discute.
Oui, bon,
on va
après,
dire.
Voilà, on va dire c'est les, si, on va dire les bons jeux d'un point de vue marketing. C'est les jeux, voilà, c'est.
Oui, parce qu'il y a ça aussi.
Bah, oui, voilà.
Ça peut tout changer.
Qui vont être mis en avant, mais je veux dire, bon, t'as Daisy qui est numéro 1, très bien, mais à côté de ça, tu peux avoir des nouveaux jeux, si tu veux, qui ne se seraient pas fait connaître avec l'ancien Steam, parce que y a RPG de merde 72 qui sort 2 minutes après et que donc il passe devant sur les listes, tu vois. Ben voilà, très rapidement, RPG de merde 72, il va pas avoir de recommandation, et puis le bon jeu, si, donc du coup... À ce niveau-là, c'est bien fait, et c'est vachement pratique, ça casse un peu. Je me rappelle qu'on avait fait un podcast il y a pas si longtemps que ça, hein, où on parlait de nos peurs justement avec Steam et cette espèce de recrudescence de jeux tout pourris qui sortent, et en plus ils ouvraient un peu plus leurs portes. On était là, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, voilà, c'est, pour moi, c'est le meilleur système pour pallier à ça. Et surtout, c'est un système intelligent, puisque ça permet aux futurs joueurs de se faire des idées un peu plus précisément sur ce qu'ils achètent. Parce que c'est tout con, hein. Finalement, le système de critique existait déjà. Ils ont juste rajouté des pouces bleus ou des pouces rouges.
Oui, enfin ça fait un moment que c'est là déjà.
Oui,
hein.
Non, mais je veux dire, on les voit. C'est-à-dire que... avant, tu les voyais pas.
Ah ouais, c'est vrai qu'avant, fallait aller les chercher, hein, pour aller voir, hein.
Voilà. Tandis que là, c'est mis en avant, si tu veux. Et du coup, c'est tout con, hein. Là, c'est purement du design, hein. Mais, comme c'est mis en avant, tout de suite, on sait, tu vois. Et voilà. Et sinon, une petite remarque toute con, mais, voilà, qui sert un petit peu à rien. Je trouve beaucoup plus joli maintenant, en fait, cette page. Cette page de magasin là,
je suis assez d'accord.
L'effet un peu, ouais, bleu machin carrément. Et tout, c'est ça donne un peu plus envie de rester sur le magasin pour voir ce qu'ils ont à offrir, si tu veux. Mais c'est plus fluide.
C'est moins austère. Voilà. Et il y a un truc que j'apprécie aussi sur les recommandations, c'est que maintenant les évaluations d'utilisateurs sont assez présentes sur la page magasin de chaque jeu. C'est-à-dire que sur le côté, juste en dessous de la jaquette du jeu, vous allez avoir évaluation d'utilisateur avec le nombre d'évaluations et le sentiment qui prévaut, en fait. Très positif, négatif, moyennement positif, assez positif. Et ça peut aussi vous amener dans votre réflexion là-dessus du coup, essayer de checker un petit peu plus les discussions autour du jeu. Enfin, c'est quelque chose que je fais de plus en plus et je pense que c'est aussi important sur un magasin aussi énorme que Steam d'en reprendre compte, quoi. Et dernière chose, sur la page de une, vous avez vu que Greenlight a complètement disparu.
Mais oui.
Je n'avais pas fait attention, mais ouais. Bah, quelque part, c'est logique, hein. Je veux dire, Greenlight servait de filtre et le filtre, maintenant, il y en a un nouveau. Donc, c'est dans la suite logique des choses, quoi.
C'est ça. Bon, après, Greenlight est toujours dans l'onglet communauté, mais ça sera pas sur la page de garde, quoi.
Bah, c'est la dernière étape avant la suppression, finalement, quoi, j'ai envie de dire.
Oui, c'est la voie de garage, là, pour Greenlight. Fini. C'était la mauvaise idée.
Mauvaise idée, je sais pas, mais je pense qu'à une époque, Greenlight avait son utilité, parce que le fait qu'il veuille ouvrir les vannes, justement, il y avait nécessité d'avoir un filtre. Et ce filtre, c'était Greenlight. Là où, à mon sens, Greenlight a mal fonctionné, c'est dans le fait que à peu près n'importe quel jeu pouvait se retrouver sur Steam, et dans le fait aussi que on savait, c'est un système opaque, quoi. On savait pas comment ça fonctionnait, et à la fin c'était devenu un peu n'importe quoi. Je veux dire, si ça se trouve, il fallait juste 3 votes, quoi, pour arriver sur Greenlight. Qu'est-ce qu'on en savait, je veux dire, enfin voilà. Bon, à part ça, on a eu Une autre annonce cette semaine, une autre nouveauté sur Steam, c'est l'arrivée de la possibilité de jouer ses propres musiques pendant nos jeux. Et ça, je pense, ma foi, que c'est une nouveauté qui va plaire à nos amis streamers. Comme ça, ils vont pouvoir. C'est déjà ce qu'ils font plus ou moins sur Twitch et compagnie. Donc, ma foi, ça va leur faire plaisir.
Tout ça pour pouvoir avoir leur Steam, leur Twitch ban, parce qu'il y a de la musique qui leur appartient pas. Ouais, c'est une très bonne idée.
Bah déjà c'était pas banni, t'as les pistes coupées et ensuite les streamers s'en foutent, en général ils mettent un lien YouTube en fait.
Oui donc, bah c'est la même chose, c'est le même principe hein, pour YouTube.
Oui non mais pas si t'es partenaire YouTube, tu peux diffuser les musiques que tu veux, du moment que t'es partenaire il y a pas de souci quoi. Bref, messieurs, je vous propose qu'on termine cette semaine d'actualité avec l'annulation de la semaine, n'est-ce pas?
Ouais.
Project Titan. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nom de code, qu'est-ce que c'est? C'était, en outre, le prochain MMO de Blizzard, celui dont on pensait qu'il allait remplacer un jour ou l'autre World of Warcraft. Sauf que il s'est passé un truc entre temps, c'est qu'ils ont eu un super succès, une nouvelle poule aux œufs d'or auquel ils s'attendaient pas du tout. Et cette poule aux œufs d'or, c'est Hearthstone, n'est-ce pas? Et des mecs se sont dit, on a ce jeu de cartes qui nous rapporte masse de thunes. Si on arrêtait ce projet là, que ça fait 7 ans qu'on bosse dessus et qu'on a toujours pas sorti de jeu, et que voilà, on passe à autre chose, et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont annoncé l'annulation donc de Project Titan. On a eu quand même quelques fuites de la part de Kotaku qui prétend avoir des contacts chez des anciens Blizzard, chez des personnes qui ont vu le projet, des personnes qui bossent dessus aussi, enfin voilà, ils prétendent avoir pas mal de contacts. Et de ce qu'on comprend, apparemment, c'était un espèce de mix entre les Sims et Destiny. Ok. Et bon, vous voyez, donc c'est un truc, ça a l'air quand même assez ambitieux. En tout cas, ça tirait dans tous les sens, ça c'est certain. Et donc, ben apparemment, ils n'ont pas réussi à concilier ces nombreuses idées qu'ils avaient pour ce nouveau projet. Notamment, apparemment, on pouvait jouer des gens dans la vie civile, genre tu vas jouer boucher, tu vas jouer garagiste, ce genre de choses, enfin voilà. Et donc, en dehors de la vie civile, tu avais donc ta vie, j'ai envie de dire, de super-héros, n'est-ce pas? Où là, par contre, hop, tu enfilais ton costume et tu allais combattre des extraterrestres qui avaient tenté d'envahir la planète Terre, etc. Enfin bref, un projet ambitieux, visiblement, et j'ai envie de dire, connaissant un peu l'histoire du MMO, comme beaucoup de projets ambitieux, ben force d'avoir trop d'ambition, ben ils en ont pas fait grand chose, hein, ils sont un peu éparpillés, puis voilà, ben le résultat c'est que le jeu est annulé.
Ouais. Mais visiblement, enfin c'était quand même un espèce de, enfin l'objectif c'était quand même de faire le MMORPG ultime, genre avec toutes les, enfin tout ce que font les concurrents mais en mieux et tout en même temps dans un même jeu.
C'est un peu ça, ouais. Mamie, notre expert MMO là, toi qui as joué des années à WoW, t'en penses quoi?
Non, moi j'aime beaucoup. j'aime beaucoup parce que c'est nouveau. Donc voilà, c'est novateur et puis on peut pas retirer à Blizzard qui savent faire des MMO. À un moment, c'est eux qui ont le patron du marché depuis 10 ans maintenant, donc. Donc voilà, et non, moi je trouvais ça intéressant parce que ça changeait du Xème MMORPG qui était dans un monde fantasy, qui était, voilà, j'étais déjà très heureux et vous avez bien entendu hein, toutes les louanges que j'ai pu faire à The Secret World, parce que voilà, c'était ouf, ça y est, enfin, pareil Wildstar. Même si ça a la tronche d'un WoW, ça reste quand même un WoW dans un monde de SF. Et rien que ça, ouf. Et y en avait marre à un moment, c'est tu voulais sortir de WoW, t'avais le droit à pas le copie de WoW 1, pas le copie de WoW 2, non seulement dans le gameplay mais aussi dans l'univers. Et
oui, et après t'avais les jeux à licence.
Oui, après voilà, t'avais les jeux à licence. Et ça c'est un peu le ras-le-bol, c'est et du coup là, déjà un jeu dans la vie actuelle, c'est ce qui m'avait plu dans The Secret World, parce que ça changeait. En plus, bon, les deux aspects, ça dépend comment c'était balancé, mais ça aurait pu être super intéressant, parce que là, pour le coup, il y a une exploitation, à mon avis, il y avait possibilité de faire une exploitation du massivement multijoueur, c'est-à-dire que tu, si, comment dire, les boulots de jour influaient tous les uns sur les autres, enfin, c'est, ça en devenait limite même dangereux. Mais finalement, c'est ce qui caractérise aussi un bon MMO, c'est qu'il devient dangereux parce qu'il devient à la limite du trop addictif. C'est que voilà, le fait que tu te dises merde, enfin que t'aies des objectifs qui t'obligent à te connecter, enfin pas qui t'obligent, mais qui t'obligent, on va dire moralement, à te connecter, parce que imaginons, pour reprendre l'exemple rigolo du boucher, c'est ma viande, elle va pourrir, il faut que je la vende. Enfin, tu vois, c'est con, hein, mais pour le coup, là, tel que décrit comme ça, c'était finalement, à mon sens, vraiment le monde persistant. On y était là, tu vois. Après, fallait voir aussi parce qu'il parlait aussi d'un gameplay à la Game Fortress. Game Fortress, ça n'existe pas. Team Fortress, oui. Dans les phases de nuit, enfin pas de nuit, mais dans le monde de la nuit, on va dire. Là, ça faisait déjà un peu plus peur, parce que c'est pas parce que t'as un super les Sims qu'il faut aussi éviter les combats. À un moment, c'est quand même 50% du truc. Mais voilà, moi, je sais que là, Project Titan, tel qu'il m'était vendu, il sortait, je l'achète. Sans prendre en compte, si tu veux, le produit, et en imaginant que ce produit soit exactement comme sur le papier, ben, je l'achète, et puis j'essaye, parce que voilà, ils ont eu malheureusement c'est pas allé jusqu'au bout, mais ils ont eu un peu les, excusez-moi, mais les couilles de tenter quelque chose de nouveau, et dans le monde du MMO, que ça stagne rapidement.
Ouais.
Parce que tout le monde trouve génial, on a internet, on peut jouer tous ensemble, mais on n'a pas trouvé encore comment. Et le problème, c'est que en plus WoW a un peu vampirisé le marché, c'est devenu un tel monstre de vente. Enfin, je me rappelle qu'au plus haut, je crois qu'ils étaient à 11-12. Je sais pas s'ils ont atteint même les 13 millions de joueurs à un moment, mais forcément, multiplié par $15 par mois, ben ça fait très vite beaucoup d'argent. Ça, tout le monde a voulu avoir son WoW personnel, sauf que ça a planté. Du coup, si tu veux, ça a fait stagner le marché, parce qu'en attendant, personne ne voulait innover. Puis on a eu enfin The Secret World, qui s'est dit à un moment, oh, les mecs, tant pis, hein, on va essayer un autre truc. Et puis ça a marché chez un public averti, on va dire. Tous ceux que j'ai pu croiser sur Secret World, c'était des anciens joueurs qui étaient avec moi, qui faisaient les raids au plus haut niveau, etc. Si tu veux, les mecs, voilà. Ouais, il y a cette envie des joueurs, je pense vraiment, à un moment d'arriver sur du MMO qui fonctionne, parce que du coup t'es avec tes potes, parce qu'on joue tous ensemble au même jeu au même moment. Mais il y a une volonté aussi de voir autre chose, c'est qu'à un moment, en 10 ans, ben le public est devenu un peu plus mature. Comme dans le jeu vidéo, hein, les jeux ont extrêmement changé entre 1995 et maintenant. Bon bah là, voilà, le MMO entre 2004 et maintenant, ça a changé aussi. Et il a envie de voir autre chose, quelque chose de nouveau. Et là, Titan, même si ça paraissait débile, même si pour certains, etc., ça avait cet avantage de dire à un moment, bon bah, on va essayer complètement autre chose. Et puis voilà, et le problème, c'est que ben ça a planté, parce que comme disait Tyran, ben il y a quand même une pompe à fric qui coûte que dalle, qui marche très bien à côté. Alors pourquoi se casser le cul sur un développement qui allait, à mon avis, durer encore 5 ans facile, et de prendre des risques, etc., quoi.
Après, bon, j'ai envie de voir le côté positif de la chose, c'est-à-dire que au moins comme ça, on n'aura pas le côté alors ça y est, Blizzard a sorti son nouveau MMO, ça marche, hop, tous les concurrents copient Blizzard, et puis on est reparti pour 10 ans, voilà, tout le monde fait comme Blizzard, et puis le MMO n'avance pas, parce que c'est aussi ça le problème du MMO, c'est que dès qu'il y a un truc qui marche, ça se copie vite, quoi. Et là aussi, un autre point que je trouve positif, c'est que peut-être qu'enfin les studios vont se dire que faire des énormes projets qui coûtent des millions et des millions et des millions, qui ont besoin de millions d'utilisateurs pour fonctionner, être rentable commercialement, c'est peut-être un peu du suicide, et que à un moment donné, il faudrait peut-être revoir ses ambitions un peu à la baisse, faire des projets qui fonctionneraient avec un public plus restreint, mais qui tenterait plus de choses pour le coup, un peu comme ce qu'a fait Evonline par exemple, ou ce que fait Scriveboard aussi. Et ben voilà. Moi, je trouverais ça bien que enfin on ait un marché du MMO un peu plus sain qui essaye également de se renouveler quelque part.
Ouais. Mais finalement, j'ai l'impression quand même que Blizzard tourne un petit peu le dos au genre. Quand tu regardes un petit peu ce que dit Mike Morhaime dans l'interview à Polygon, ils disent concrètement, est-ce que nous on est est-ce qu'on est l'entreprise du MMO ? Non. En gros, ils sont en train de te dire que, enfin, on a peut-être fait un super MMO, mais c'est pas ça notre signature. Ils disent ensuite, voilà, je dirais pas que on ne fera plus jamais de MMO de notre vie, mais je peux dire que maintenant, on n'a pas l'intention de passer notre temps là-dessus. Donc là, très clairement, tu sens que le MMO, c'est plus du tout la priorité de Blizzard, quoi.
Ouais, puis en même temps, on les comprend, hein, je veux dire, ils ont un super jeu de cartes pas du tout équilibré qui marche bien. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire des MMO? En plus, c'est un genre de jeu, mais genre ultra compliqué à faire, quoi. Autant faire des jeux de cartes, j'ai envie de dire.
Quand tu vois l'utilité, enfin pas l'utilité, mais les nécessités au niveau de développement, moi je vois ça du point de vue des GD du coup, hein, parce que les autres je vois moins, mais au niveau de l'équilibrage, du design des quêtes, de l'arbre des quêtes, parce que c'est un truc, c'est voilà, l'arbre des quêtes, l'enchaînement des quêtes logiques, des trucs comme ça, enfin c'est un monstre, le RPG en général, mais le MMO encore plus, parce qu'il faut prévoir ça x8, c'est-à-dire que fois le nombre de classes. Il faut prévoir ça en plus, s'il est avec des joueurs ou pas, tu sais, penser à cet équilibrage-là aussi, s'il joue tout seul ou s'il joue à 5, dans un groupe. Il faut designer les donjons, et quand je dis designer, pour ceux qui... parce que beaucoup de gens font l'erreur, c'est designer dans le sens le penser, pas dans le sens le dessiner. Donc voilà, il faut designer les donjons, les patterns des boss, les machins, enfin c'est ignoble, hein, et c'est pire que dans un RPG solo du coup, parce que le RPG solo finalement... C'est moins demandeur en ressources parce que c'est un jeu solo et qui doit pas donc fonctionner de façon persistante, et du coup après ça je parle que du point de vue GD, et finalement c'est le boulot qui est moins demandeur en ressources matérielles, parce qu'après bah t'as tous les dessins, les machins, les doublages, l'animateur, les machins, et ça te demande à mon avis un MMO même petit comme disait Tyran, tu tables sur 3-4 ans de développement pour avoir un truc honnête. Au moins 3-4 ans de développement, même pour un petit MMO, ça coûte cher, ça coûte très cher, parce que faut savoir, je sais pas si ça a déjà été dit un jour, mais la chose qui coûte le plus cher dans le jeu vidéo, c'est l'humain. Le plus gros départ d'argent, c'est pas le matériel, c'est pas les logiciels, c'est les mecs que tu payes. Il y a des gens qui pensent que c'est autre chose, hein.
Oui, la plupart des gens pensent que c'est à cause des serveurs alors que ça coûte que dalle, en fait.
Voilà. c'est les êtres humains qu'il y a derrière, et il faut les payer à un moment, faut qu'ils mangent.
Oui, parce que c'est lourd en personnel quand même. Parce que je veux dire, un MMO, c'est du support. C'est des mecs qui doivent développer la prochaine extension. C'est les mecs qui doivent corriger les bugs, s'il y en a. Enfin, voilà, c'est du pub, quoi.
Ça coûte très vite très cher, donc voilà, je pense que là, Blizzard, et là, c'est un coup de gueule. Pour le go. Là, ils font leur feignasse. Dans d'autres développements, s'il y a une feature qui marche pas, on la vire, on la change, on la modifie, tu fais ce que tu veux, mais on n'arrête pas le jeu comme ça d'un coup. Pas au bout de 7 ans de développement.
Enfin, si, mamie, écoute, enfin, au bout de 7 ans, justement, je veux dire, 7 ans, quoi, 7 ans qu'ils ont rien pondu, à un moment donné.
Mais non, mais il y a une différence entre rien pondu, tu vas pas me dire que... Attends, je suis désolé. En plus, une entreprise, je veux dire... comme Blizzard, c'est-à-dire les mecs, c'est pas des bleus.
Bah mais écoute, à un moment donné, je veux dire, faut pas déconner, quoi. Les mecs, ils ont des comptes à rendre quand même. Le fait est que, alors peut-être qu'ils ont pas rien pondu, mais le fait est que c'est pas exploitable. Tu dis toi-même qu'il faut 4 ou 5 ans. Alors,
oui, mais c'est ça. Très, oui, d'accord. Mais je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est pas des bleus. Je parle au niveau des patrons. Normalement, tu mets pas 7 ans à te rendre compte qu'un projet tourne en rond. Enfin, c'est pas possible. Ils avaient forcément un petit quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les milestones, c'est à mon avis pas plus tard que tous les 6 mois.
Oui, mamie, mais enfin, tu oublies un truc là, c'est que c'était censé être le remplaçant de WoW. Forcément, ils avaient un souci là, c'est que ils avaient une poule aux œufs d'or qui s'appelait WoW, qu'ils n'arrivaient pas à remplacer, il leur fallait absolument un remplaçant, et que, hop, il y a un truc qui a marché, et ce truc, c'est Hearthstone. Et du coup, les mecs, ils se sont dit, ben, ça y est, maintenant, on peut enfin arrêter les frais. Parce que moi, à mon avis, c'était ça le problème, c'est qu'ils pouvaient pas s'arrêter. Parce qu'il fallait absolument un remplaçant à WoW. Et le remplaçant, ça y est, ils l'ont trouvé, en tout cas en termes de cash. Après, en termes de gameplay, effectivement, c'est un autre problème, quoi.
Oui, et c'est, je te dis que c'est surtout pour ça le coup de gueule. Hein. C'est pour ça que je dis que ça devient une entreprise feignasse. Et c'est de plus en plus le cas maintenant sur beaucoup d'entreprises. C'est alors certes, bon, là c'est un coup de gueule. C'est pas du coup c'est pas mon côté développeur qui parle. Là c'est l'autre, c'est le côté joueur. Parce que le côté développeur comprend tout à fait. Et le pire c'est qu'il est pas totalement en désaccord parce qu'à bout d'un moment on est une industrie, on est là pour faire du fric. Mais en tout cas pour les jeux comme Hearthstone, parce que pas pour les jeux solo du coup, parce que les jeux solo souvent on est là pour faire du fric, mais on est aussi là pour raconter une histoire quand même et faire vivre une expérience, faire vivre l'expérience dans Hearthstone. Excusez-moi, mais bon, les jeux de cartes, hein, il n'a pas fallu attendre Blizzard pour qu'on invente ça. Mais comment dire, le problème c'est que maintenant, donc là côté joueur du coup, c'est que voilà, t'as des entreprises maintenant, ils se tournent de plus en plus, et ça c'est en partie à mon avis la faute de la montée de l'e-sport. C'est voilà, on se tourne de plus en plus vers des jeux assez simples à mettre en place avec un gameplay ras des pâquerettes, parce que finalement c'est ce qui est le plus simple à équilibrer.
Oula, attends, mamie, là, on va finir par se flasher là. Je suis pas du tout avec toi sur ce que tu dis sur l'e-sport, quoi. Enfin, je veux dire, l'intérêt de l'e-sport quand même, c'est d'avoir des jeux avec un minimum de skill, quoi. Et je suis désolé, tu prends pour c'est moi, Hearthstone c'est pas un jeu e-sport. Pour moi, Hearthstone, ce n'est pas un jeu e-sport. Enfin, pour avoir un jeu intéressant en e-sport, il faut que y ait des players pros qui fassent des trucs qui impressionnent la foule, quoi. Enfin, c'est pas avec Hearthstone que
j'ai dit
dans le sens.
J'ai pas dit qu'Hearthstone était un jeu e-sport. J'ai dit que ça, il provient de la nouvelle mode avec les jeux e-sport de vouloir faire des jeux à gameplay rapidement assimilé. Et Hearthstone, franchement. 30 secondes grand max pour comprendre tout, hein. Mais voilà, c'est rapidement assimilé, c'est à fun immédiat et c'est à intérêt quasi zéro, parce que avec un système c'est pas monétaire le nom, c'est économique. Un système économique bon bref, voilà, hein. mais voilà, c'est la nouvelle mode, si tu veux. C'est plus la mode du free-to-play que de l'e-sport finalement, mais voilà, c'est du free-to-play facile et bas de gamme, sauf que ben comme ils ont foutu les icônes de WoW et de Warcraft pour être plus précis, bah ça se vend par paquet, et c'est pour ça que je dis entreprise feignasse, parce que jeu de cartes, je suis désolé, mais c'est un bon jeu de cartes, c'est extrêmement dur à designer, c'est on va prendre Magic. Un jeu de cartes fonctionnel, c'est facile à faire comme Hearthstone, et un gameplay vraiment minimal comme Hearthstone, ça leur a pris peut-être 2 semaines à tout péter à imaginer ça, quoi. C'est du niveau, j'en ai vu. Hein.
Justement, il me semblait avoir lu un article où il parlait du développement de Hearthstone. Il disait juste que ils avaient d'abord imaginé tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le design du plateau, des cartes, l'ambiance, les animations, etc. Et qu'ensuite ils avaient designé le jeu, en fait.
Ouais, bah voilà, c'est pour avoir fait un, pour avoir mon projet de fin d'année de l'année dernière, c'était un jeu de plateau. C'est à l'inverse quand tu penses normalement. tu penses à qu'est-ce que tu veux faire vivre aux joueurs, et après tu imagines ton plateau. Mais bon, voilà, c'est n'importe quoi, et voilà, c'était le coup de gueule à ce niveau-là, c'est que j'espère qu'à un moment Blizzard va se calmer, parce que c'est la deuxième fois que j'ai vraiment un truc à leur reprocher. C'est un, l'importance qu'a pris Hearthstone, et deux, le n'importe quoi qui a été fait au niveau de Diablo 3 à l'époque, et que ça revient toujours au même problème, c'est le pognon. Mais bon, ça c'est mon côté joueur qui parle, encore une fois, le côté développeur comprend tout à fait pourquoi ils font ça, sans problème.
Mordren, quelque chose à ajouter peut-être?
Ouais, mais en fait, Mamie a parlé d'un truc assez intéressant, c'est-à-dire que Hearthstone, pourquoi ça marche, c'est parce qu'il y a Warcraft derrière. Il y a de ça, mais du coup, pourquoi ils auraient pas juste arrêté Titan parce qu'il y avait pas Warcraft derrière? Tu vois, parce que, est-ce que c'est pas trop compliqué actuellement de mettre en place une nouvelle licence, surtout sur un MMO aussi ambitieux que Titan? Il y a peut-être aussi de ça.
Oui, non, mais tout à fait, mais de toute façon, faudrait faire un podcast entier là-dessus, mais très très rapidement, c'est que, Là, on arrive à un moment dans l'industrie où lancer une nouvelle licence va devenir extrêmement compliqué, et j'ai un seul exemple qui à mon sens, illustre ça parfaitement, c'est la PlayStation 4. Pac-Nac, même si c'est rigolo à citer comme ça, mais l'une des vraies grosses annonces qu'il y a eu cette année, et je me rappelle même des réactions de la salle qu'on pouvait voir sur le stream, c'est Uncharted 4. Et c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire que sur la PlayStation 2 avait Jack and Daxter, Ratchet and Clank, machin. La PlayStation 3 avait donc Nathan Drake avec les Uncharted, et la PlayStation 4, eh ben on met Uncharted 4. Ce que je veux, c'est que maintenant on peut plus créer une nouvelle licence. C'est pareil, la Xbox One, elle est en train de se vendre sur Halo, quoi.
Oui, enfin, mamie, t'exagères un peu, là. Je veux dire, t'oublies quand même qu'ils ont essayé de lancer de nouveaux trucs, genre leur TPS, là. Il s'appelle comment,
The Order 1980.
Voilà, leur TPS victorien, là, justement. Bah, et c'est nouveau, ça, quand même.
Oui, non, mais, attends. Là, je te parle de façon de vendre la console. The Order n'a pas vendu de PS4, hein.
Bah, peut-être, mais ils ont quand même essayé de communiquer dessus, quoi. Je veux dire,
bah, oui. Voilà. Mais c'est, y a pas de, enfin, là, pour l'instant, enfin, je crois que je me souviens, c'était pendant la pub. La campagne de marketing de Uncharted, premier du nom, on vendait clairement Drake, si tu veux. Tu vois, c'est des figures, on personnifie le jeu pour que les gens s'identifient, pour que les gens achètent plus facilement parce qu'ils ont une sympathie pour le personnage. On va là, ils vendaient Drake. Là, dans c'est pas Bloodborne, c'est un Rapsus Révélateur, ça. C'est quoi déjà The Order. Et on sait que c'est dans un truc victorien, que c'est un TPS. À volonté, apparemment, mise en scène, machin, et script à mort. Mais on n'a pas de nom de personnage, on n'a pas de personnage clé, on n'a pas de personnage phare. Et à mon
sens... On a vu du gameplay de The Order, déjà.
On a vu un peu de gameplay,
déjà.
Ouais. Mais à mon sens, c'est pas, il a pas été fait dans le but d'être une licence phare de la console, si tu veux. Ça va être une licence exclue, mais... Enfin, voilà, c'est comme Sunset Overdrive sur One. C'est des licences, si tu veux, c'est des exclus, mais... Je pense que ça a pas l'air d'être des fers de lance du truc, et j'ai l'impression qu'actuellement il y a de moins en moins ça, et surtout Blizzard qui ont quand même une, deux, trois grosses licences rien qu'à eux. Je rejoins Mordrain là-dessus, c'est que ça devient extrêmement compliqué de lancer une nouvelle licence, quoi. Ils ont Diablo, ils ont Starcraft, ils ont Warcraft. À un moment, stop. ils peuvent plus comme ça avoir 12 000 idées à l'année non plus, mais et c'est ce que je trouvais aussi dommage à ce niveau-là.
Bah la preuve en est leur MOBA Heroes of the Storm. Bah ouais. Ils ont dit bon bah c'est bon, on a assez hein pour faire un MOBA.
Ça, voilà. Ils sont en train de se Nintendoifier en foutant toutes leurs licences partout, quoi.
Ok messieurs, bon. Je crois qu'on va s'arrêter pour l'actualité cette semaine. Nous allons enfin pouvoir passer à notre jeu du moment. Et ce jeu du moment, c'est un jeu 3DS, c'est un jeu de rythme, et ça s'appelle Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call.
Donc, TS Rhythm, ou CS Rhythm, si vous voulez être pointilleux, Final Fantasy Curtain Call, c'est son nom complet et qu'il est en partie important vu qu'il y a déjà eu un CS Rhythm Final Fantasy sorti. C'est un jeu qui est donc sorti sur Nintendo 3DS. Il est sorti la semaine dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un jeu, alors, c'est un jeu forcément qui se réfère à Final Fantasy, vous l'aurez, je pense, deviné.
Non, tu déconnes, là.
Je te jure que si. Et en fait, c'est là où j'ai trouvé très intelligent ce jeu-là. C'est donc un jeu de rythme, et qui a pour musique, eh bien, les musiques d'à peu près tout ce qui a un jour porté Final Fantasy dans son titre. Et c'est là son principal intérêt. Mais déjà, je vais faire la généralité rapidement, et puis on viendra point par point sur les choses importantes. Et donc voilà, donc c'est un jeu de rythme. C'est bien entendu édité par un Square Enix, évidemment, et c'est développé par une boîte qui s'appelle Indie Zero Company. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre, à part c'est Asrisum premier du nom. Mais enfin voilà, et c'est un jeu qui est vachement bien, comme ça il y aura pas de suspense, puisque donc je vais vous expliquer donc vite fait le gameplay. Alors il y a trois types de niveaux en quelque sorte. Il y a les FMS, donc ça c'est les niveaux où les personnages se déplacent. Et ça prend donc toutes les musiques de Final Fantasy qui sont les musiques des world maps ou les musiques quand on vole ou toutes les musiques qui ont un lien avec le déplacement. Il y a une ligne en fait à l'écran, je vous invite à regarder des screens etc, mais il y a une seule ligne à l'écran et trois types de boutons, les boutons rouges qu'il faut taper rapidement, les boutons verts où il faut appuyer une première fois, laisser appuyer jusqu'à la fin de la ligne se défile toute seule, puis on relâche et ça valide la note. Et les boutons jaunes où il faut en fait donner un coup de stylet dans la direction qui est montrée par ces boutons jaunes. Et il faut faire ça bien entendu en rythme. Et donc voilà pour les FMS. Pour les BMS, c'est les combats. Là, vous avez quatre lignes et c'est les mêmes types de touches. Et en fait, à chaque coup que vous finissez, à chaque coup que vous réussissez une touche, le personnage qui est lié, mais j'y reviendrai très vite, donne un coup. Et enfin, les EMS où là, c'est vous avez une vidéo. Hein, tout bêtement, une vidéo en CGI, et l'endroit où on valide les touches se déplace complètement à l'écran, dans tous les sens, et c'est à vous en fait d'anticiper en regardant les touches qui arrivent juste après, pour taper au bon moment, etc. Donc ça c'est les trois types de niveaux, et le principal intérêt, et même je dirais la principale nouveauté par rapport au jeu de rythme habituel, c'est que c'est en fait une sorte de RPG, c'est-à-dire que vous avez donc des personnages. Les personnages, hein, c'est pas compliqué, hein, y a Cloud, Squall, Zidane, enfin tous les personnages, Barrett, etc., tous les personnages principaux ou secondaires, enfin secondaires non, mais des équipes des Final Fantasy. Et en fait, chaque personnage a donc des capacités et des caractéristiques, pardon, et des capacités. Donc très rapidement, les personnages, ils ont la force, la chance, la magie, la stamina, l'agilité et l'esprit, chacun influant en fait sur des facteurs comme déjà le nombre de points de vie, qui est en fait le nombre d'erreurs que vous pouvez faire pendant une partie. On ajoute tous les points de vie des quatre personnages de votre équipe. Et ça donne en fait la taille de la barre d'erreur, si vous voulez. La chance, c'est les objets que vous pouvez ramasser. La stamina, c'est pareil, ça influe aussi un peu sur les points de vie. La magie, c'est les dégâts magiques, puisqu'il y a aussi des dégâts. l'agilité, voilà, c'est pareil, les dégâts critiques ou pas. Tout un tas de trucs comme ça. Sachant que les capacités qui sont au nombre de 6 vont par pair, et qu'il y a des capacités maîtresses pour les FMS, les BMS et les EMS. Ce qui fait qu'il faut en fait penser son équipe en amont suivant le type de musique que vous allez faire pour optimiser en fait les gains. Ça devient déjà intéressant. C'est déjà beaucoup plus intéressant, sachant qu'en plus du coup quand vous finissez une musique, vous gagnez de l'XP suivant le degré de complétion de la musique, si vous avez fait tout en réussite critique, etc. Du coup vous avez fait la musique à 100%, vous avez des rangs hein, qui vont de, je crois, F à triple S. Et donc vous gagnez de l'XP, vos héros gagnent en niveau et ils gagnent des sorts qui sont repris de sorts de DFF et qui vont faire tout un tas d'effets pendant votre partie de jeu de rythme. Alors les sorts, vous ne les lancez pas vous-même, ils ont des conditions de lancement. Par exemple, si vous réussissez, je sais pas moi, 5 critical d'affilée, bon bah il y a tel sort qui va se lancer de tel personnage, etc. Donc ça devient un gameplay extrêmement fouillé et vous allez passer finalement énormément de temps bah comme dans un FF, à optimiser vos personnages, puisqu'en plus, c'est la dernière chose générale que je voulais aborder, c'était il y a donc le système des collect, c'est le collecta card crystarium, ça s'appelle. Et ça, en fait, vous allez au fur et à mesure donc ramasser des objets au fur et à mesure de des musiques que vous allez compléter, et c'est des objets aléatoires, hein, c'est comme des drops dans FF, et soit ce sont des objets type potions, etc., que vous pouvez équiper et qui donc vont avoir des effets eux aussi pendant les combats, soit c'est ces cartes à collectionner, je sais plus, mais il y en a beaucoup, c'est des cartes qui représentent les personnages, les monstres, les boss, etc., de chaque jeu, et vous pouvez donc les avoir, vous compléter si vous voulez une espèce de book, c'est bien fait d'ailleurs, on a l'impression que c'est les bouquins, bah toi qui es joueur de Magic, t'as peut-être déjà vu ça, les mecs ils rangent leurs cartes dans des bouquins plastifiés,
ouais,
etc.
Ouais, c'est un bot qui fait ça.
Bah voilà, c'est ça. Et vous avez des petits modèles 3D que vous pouvez regarder aussi, qui sont les modèles 3D de Theatrhythm, pas les modèles 3G originaux, parce qu'à un moment vous jouez sur 3DS quand même. Et du coup ces cartes servent aussi donc dans le Collecta Card Crystarium. Puisque ce collecta card crystarium, c'est en fait, vous prenez un personnage, vous mettez des cartes autour de lui, et suivant le type de la carte, le jeu d'où vient la carte, si la carte est la même qu'une autre carte que vous avez déjà posée juste avant, si c'est par exemple, je sais pas, si vous avez Yuna, si vous mettez Tidus à côté, ça fera un bonus. Mm-hmm. Enfin, vous voyez, c'est tout un tas de trucs. Ça va augmenter les caractéristiques de votre personnage d'une manière ou d'une autre. Sachant que...
La carte est consommée ou...
La carte est consommée, mais par contre, elle est conservée dans ta collection. C'est-à-dire que tu peux toujours l'avoir. Et enfin, dernier truc, c'est que quand vous atteignez le niveau 99, qui est le dernier, théorie, vous pouvez relancer votre perso, donc redescendre au niveau 1, sauf qu'il a gagné un niveau de je ne sais plus quoi, ce qui vous permet d'avoir plus de points de compétence et donc d'utiliser des sorts plus puissants au prochain run. Sachant que le maximum étant de 99, mais vous l'avez qu'au bout de 10 resets de personnages. Donc si vous voulez vraiment monter une équipe au niveau maximum, 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 imaginez la durée de vie.
No life.
C'est ça, c'est no life complet. Maintenant, l'argument de vente principal de jeu, c'est quand même les musiques, parce que c'est un jeu de rythme, faut pas déconner. Alors là, vous êtes servi, il y a plus de 220 morceaux, hein.
Ah bah, faut dire qu'avec la BO de Final Fantasy, il y a de quoi faire.
Ah
hein,
oui, oui, oui.
Et pour le coup, je pense que les fans vont être servis, là. Hein.
Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour Square Enix de balancer un petit peu le petit DLC qui va bien?
Mais bien sûr qu'il y a du DLC, Mordred.
D'accord.
Mais
c'est bien ce que je me disais.
Mais vous pouvez clairement faire sans. Hein. Voilà, il y a de base de 120 morceaux qui vont donc qui font à peu près tous les FF, hein, FF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pas 15, pardon, oulala, 13, 14.
Ouais, non, mais mamie, t'en fais pas, ça vient dans le DLC.
Voilà, il y a le 10-2, il y a le 13-2, il y a Lightning Returns, il y a Mystic Quest, l'épisode Game Boy. Il y a Tactics, sachez que ça va plaire à Tyran. Il y a quoi d'autre? Attendez, il y a Crystal Chronicles. Il y a Crisis Core, il y a Advent Children, voilà, c'est pour ceux qui aiment. Il y a même les Dissidia, les deux Dissidia, et il y a Type Zero.
Alors en termes de morceaux, ok, c'est complet, mais en termes de contenu, c'est bon aussi ou...
Alors bah, t'as deux modes de jeu principaux, donc je sais pas les FMS, BMS, ça c'est les types de musique, mais il y a deux modes de jeu principaux. Le mode de jeu donc bac à sable, hein, qui le music stage ça s'appelle, donc là vous avez les musiques tout bêtement qui sont listées par jeu. Il faut avoir joué un tout petit peu, il y a une sorte de tuto qui dure peut-être une petite heure, où en fait vous allez au départ débloquer que 4 personnages et vous allez avoir que les musiques des 4 jeux des personnages que vous avez choisis au départ seulement, puis une fois que vous avez fini le tuto vous allez avoir accès à tous les autres jeux. Donc là vous avez la liste de toutes les musiques, sachant qu'il y a un système qui est vachement bien foutu, un système de favorites qui permet en fait de créer ta playlist avant de jouer, et il y a le système aussi de random qui lance n'importe quelle musique dans la liste de musique, donc voilà. Et enfin le deuxième mode de jeu, c'est le mode qui à mon avis va bouffer enfin non, il y a 3 modes de jeu, mais celui qui va bouffer le plus de temps aux joueurs, c'est le Quest Medley. Ce sont des quêtes qui pop au fur et à mesure que vos personnages montent de niveau et que vous terminez les quêtes précédentes. Et c'est sous forme d'une map et c'est un enchaînement où vous choisissez l'embranchement dans lequel vous voulez aller pour faire des musiques, etc. Et à la fin, faut battre le boss et vous récupérez donc des crystal shards ou des objets précieux. Les crystal shards permettant de débloquer les personnages, puisque au début, comme je l'ai dit, vous en avez que 4, et qu'au total, il y en a 60.
Ouais, donc il y a quoi faire, hein.
Et donc voilà. Et enfin, le troisième mode de jeu, rapidement, c'est un mode versus, qui fait un peu penser d'ailleurs à une mauvaise idée. C'est-à-dire que le mode versus en soi, donc c'est la nouveauté de ce jeu-là. Le mode versus est très bien. Heureusement, en ligne, on peut supprimer le défaut du mode versus, c'est-à-dire que il y a 8 sorts qui se lancent aléatoirement au fur et à mesure de vos réussites pendant la partie du versus, qui sont en fait des malus pour l'équipe adverse. Et le problème, c'est que c'est pas équilibré là. Il y en a, c'est complètement craqué. Il y en a certains, par exemple, qui font tourner les flèches avant qu'elles arrivent à l'endroit où il faut les valider. Ce qui fait que vous ne savez pas exactement. Il faut prévoir à l'avance dans quel sens elles vont arriver avant d'activer la touche. Et ça devient très vite compliqué dès que vous dépassez le niveau facile en fait de difficulté, quoi. Ça devient n'importe quoi. Et le problème, c'est que comme c'est aléatoire, vous pouvez vous le prendre 3 ou 4 fois d'affilée. Puis l'autre a gagné facilement, quoi. Donc, mais on peut le supprimer dans le mode online. Donc voilà, si vous avez des questions.
En fait, t'as peut-être pas joué au premier, mais du coup, j'arrive pas à bien comprendre la différence entre le premier Theatrism et le second, en fait. En dehors du mode versus qui a priori est inédit et du nombre de morceaux qui a triplé, je vois pas en fait ce qu'il ajoute.
Est-ce que c'est pas un Theatrism 1.5 ou quoi ?
C'est ça.
Alors, d'après ce que j'ai compris. Parce que comme tu dis, j'ai pas fait le premier. Donc en fait, j'ai acheté la 3DS le jour de la sortie de Curtain Call et que j'ai acheté tout de suite.
Mais qui est beaucoup trop taquin.
Bah, c'est ça. Déjà comme t'as dit, le nombre de morceaux a triplé. C'est pas mal.
Ouais.
Apparemment, tout ce qui est avancé des personnages, le côté RPG est beaucoup plus poussé quand même.
D'accord.
Le collecteur carte Crystarium, je crois que c'est nouveau. Il me semble. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de... Le Quest Medley, il a un mode en fait où il générera des quêtes en continu et de façon aléatoire. Donc c'est durée de vie infinie normalement le Quest Medley.
Et puis surtout, il y a l'arrivée du mode bouton, n'est-ce pas ? Parce que le premier Theatrism n'était jouable qu'au stylet,
oui, je le rappelle. Oui, c'est vrai qu'il y a les autres modes. C'est vrai que là par contre, je suis un très mauvais testeur à ce niveau-là. Il y a le mode demain, tous ces trucs où on peut jouer, oui, effectivement, avec les touches, je crois, avec les touches et le stick. Donc normalement, comme je l'ai dit, vous devez taper ou glisser le stylet. Là, vous appuyez sur les touches, je crois, L et R, si je dis pas de bêtises, et vous bougez dans la direction indiquée, mais avec le stick. Et il y a même le mode une main. Mais le problème, c'est que c'est la main gauche, donc j'ai vraiment pas pu le tester pour le coup, qui en fait utilise seulement le touche L et le stick. Puis c'est vrai que oui, il y a ces deux modes de contrôle là qu'il y avait pas dans le premier apparemment.
Et du coup, au niveau des morceaux spécifiquement, bon après, je sais que t'es en train de te refaire tous les Final Fantasy, mais est-ce qu'il y a certains morceaux qui te semblent emblématiques et qui n'ont pas été inclus dans le jeu? Justement parce qu'il y a des DLC, genre je sais pas moi le thème de Sephiroth, le thème de la bataille dans Final Fantasy VII, tu vois, des trucs complètement iconiques et qui manquent au jeu de base tout simplement parce qu'il y a des DLC qui arrivent après, ou non, ça te paraît un peu complet?
J'ai eu vent, donc là c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'était dans un test que j'ai lu. Une personne qui se plaignait, alors attends, je suis en train, parce que là j'ai le jeu de lancer, c'est justement pour retrouver le nom. En fait, une personne qui se plaignait d'une musique qui n'était pas là, et c'était Roses of je sais plus qui. Oui, c'est Roses of May, voilà, j'ai sous les yeux la musique, c'est FF9, apparemment. Et il y a l'autre musique gratuite, c'était Battle 2 de FF5, donc là on s'en fout un petit peu. Enfin, personnellement, on s'en fout un petit peu. Bah, apparemment, rien que l'évocation du nom va tout de suite faire dresser les poils sur la tête aux gens, donc voilà. Et en fait, elles sont en DLC, sauf que, bon, c'est que pour 2 semaines, mais ces deux musiques-là spécifiques sont gratuites.
D'accord.
Parce qu'ils ont dû se rendre compte que les gens ont râlé, qu'ils se sont dit bon, on sort les DLC, donc ces deux-là, on va les mettre gratuites. Effectivement, moi j'ai usé gratuitement. Et en DLC, il y a aussi autre chose en DLC, donc là c'est beaucoup plus dispensable et vraiment c'est si les joueurs veulent, c'est qu'il y a des personnages qui sont débloquables en DLC.
D'accord.
Il y en a que deux pour l'instant, Yuffie et Rosa de FF4. Donc voilà, c'est pas des personnages non plus, voilà. Et oui, non, la seule chose que j'aurais à me plaindre sur la musique, mais là c'est strictement personnel, c'est il y en a une, en fait c'est une EMS en plus, donc elles sont rares et elles sont dures à débloquer, puisque j'ai oublié de dire rapidement comment on débloque tout ça. Pour les personnages, donc soit vous collectez des cristaux en faisant des quêtes, ou la deuxième façon de collecter des cristaux, c'est avec donc le système des rythmia. Les rythmia, vous en gagnez à chaque fin de musique. Ça fait office de métascore, si vous voulez. Par exemple, moi, là, je suis à 9014 RM. Ça veut dire que, voilà, j'ai fait suffisamment de musique pour engranger ça, au total. Ça va même se placer sur votre carte profil qui se passe par Street Pass entre les joueurs, etc. Et, ces rythmia, toutes les 250, vous débloquez, donc, soit des cristaux, qui, donc, vont vous débloquer un personnage, soit donc les EMS qui sont les musiques avec la cinématique CGI derrière, soit des trucs marrants, c'est des sound effects, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur une touche, il y a un petit feedback sonore pendant votre partie. Et vous pouvez changer ce feedback sonore. C'est-à-dire que normalement, ça fait, imaginons, ch'ting, bah à la place de ça, vous pouvez mettre le bruit de tel ou tel sort qu'il y a dans tel ou tel FF. C'est des trucs un peu, voilà, c'est pour rigoler, et puis c'est un peu plus RP, on va dire. Mais voilà, et donc la seule plainte que j'ai, c'est pour les EMS, parce que déjà, elles sont longues à débloquer, et elles sont assez dures. C'est celle de Advent Children. Il y a donc la musique de Sephiroth de Advent Children, qui est vraiment excellente. Sauf que, jeu oblige, vu que la musique au départ, je crois qu'elle dure dans un truc comme 7 minutes. ils l'ont coupé, c'est-à-dire qu'on n'a pas, si vous voulez, ils auraient pu faire un coupage intelligent où on aurait un peu de, parce que c'est un peu une musique en 3 actes, on va dire, la musique de Sephiroth. Il y a que le premier acte et ça coupe à la fin. Et voilà. Et ça m'ennuie parce que j'adore les actes suivants où ça part en n'importe quoi, la guitare électrique par exemple, etc. Il n'y est pas là. Là, ça y est pas. Donc voilà, je trouve ça dommage et j'espère là pour le coup qu'ils vont pas faire une complète édition en DLC parce que là par contre,
j'aurais mauvais. DLC.
C'est ça. Mais voilà. Mais sinon non, les musiques, de toute façon, je dis, ça fait, j'en suis à combien, 10h40 de jeu et j'ai même pas fait la moitié des musiques donc.
D'accord. Donc tu as testé ton jeu pas à 100%, bravo.
Ouais.
T'as mentionné le Street Pass tout à l'heure. Est-ce que il y a des interactions intéressantes à faire avec le Street Pass de la 3DS ou pas du tout ?
Oui. Enfin, il y a une chose que moi je trouve intéressante. Après, ce sera un peu au jugé. Par Street Pass, du coup, vous passez les profi cards, ça s'appelle. Donc c'est les cartes de profil où il y a votre nom, il y a une petite phrase rigolote que vous pouvez générer avec un petit générateur de phrases. Qui est censé, voilà, dire, je sais pas, par exemple, s'il y a Mighty Stoic Warrior ou des trucs comme ça, voyez, vous pouvez mettre n'importe quoi, votre pseudo, donc le fameux nombre de rythmia que vous avez débloqué, votre temps de jeu, etc. Et il y a aussi surtout, donc pour ceux qui aiment les trophées, parce qu'il y en a, le nombre de trophées que vous avez débloqué. Et surtout, vous pouvez coller une des quêtes qui sont générées à votre profi card. Et ce que ça permet, c'est que lorsque donc moi je reçois une profi card de quelqu'un, je peux charger la quête. Elles vont dans les quêtes qui sont dans la case inherited maps. Alors là tout de suite j'ai perdu le mot carte héritée si vous voulez. Puisque le jeu, oui j'ai oublié de le dire, point important, le jeu est uniquement en anglais. Total. Il y a pas de version française. Mais moi qui suis en train de faire FF, c'est peut-être pas plus mal. FF7, je vous dis que c'est peut-être pas plus mal.
Ouais,
mais voilà, il est uniquement en anglais. Donc ouais, les cartes, les quêtes, vous pouvez donc en choper une par profi carte que vous avez, sachant que si vous croisez souvent un joueur, il peut changer de quête collée à sa profi carte et ça vous permet d'avoir des quêtes en fait qui sont générées à partir d'autres consoles. Et bah ça booste encore une fois la durée de vie, donc je trouve ça être très intéressant à ce niveau-là en fait. Et en plus, vous avez la progression du joueur sur cette quête-là, et donc vous pouvez Vous pouvez essayer de le battre, etc. Vous avez, si vous voulez, sa trace, quel chemin il a pris, puisque c'est à chemin multiple, les quêtes, et quel score il a fait à telle ou telle chanson, etc. Donc c'est, je trouve ça intéressant.
D'accord. Et juste pour terminer, est-ce que c'est un jeu qui propose du challenge quand même un peu ou pas?
Alors, pour le coup, je me permets de dire que je suis tout indiqué pour cette question, vu que j'ai joué énormément à Guitar Hero, même à Elite Beat Agents, qui a un gameplay quand même assez similaire. Je gros consommateur de jeux de rythme pour ma part,
ouais.
Et de RPG, donc ça tombe bien. Et le problème, enfin le problème non, le bon côté justement, c'est que oui, le challenge est ardu. C'est-à-dire que vous allez commencer donc à faire des basiques en basique, en mode basique. Donc le mode basique, il est tout gentillet. Vous vous faites rapidement suer dessus, hein, très rapidement. Quand vous arrivez au sixième triple S d'affilée, vous vous dites qu'il y a un problème. Et dès les musiques en mode normal, déjà, on commence un petit peu à avoir de la sueur qui commence à apparaître sur son front. Alors les modes, enfin le mode normal s'appelle le mode expert d'ailleurs. Et t'as le mode extrême où là, ça devient n'importe quoi. Hein. C'est vraiment. Alors on sent par contre que j'ai oublié de dire au niveau du LD. Enfin pardon, au niveau de si le LD, c'est en gros. Où on pose les pastilles et comment on gère les enchaînements pour ce genre de jeu-là, c'est excellent. C'est, on a vraiment l'impression de taper la mesure de la musique qu'on entend. Et en extrême, c'est vraiment extrême pour le coup. C'est-à-dire que il faut déjà votre 3DS, vous avez intérêt à la mettre dans un endroit où elle peut plus bouger. Et après, il faut, faut tapoter dur, quoi. Et je pense que si en plus ça colle à beaucoup de type de joueur, parce que du coup la difficulté elle peut être trouvée ailleurs, elle peut aussi être trouvée dans la, tu sais, l'augmentation des personnages, etc. Donc suivant que ce soit un joueur qui aime la complétion à mort ou un joueur qui veut du challenge corsé en solo ou même en multi, le jeu va toujours coller, puisque donc le mode extrême est vraiment très dur, vraiment très très dur. Si c'est pas assez dur pour vous, bah, allez faire du versus, vous allez comprendre votre douleur. Et si votre but c'est pas tellement de faire une musique, c'est juste de réécouter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté pour ça, dans ce que je connais, pour juste réécouter les musiques de Uematsu principalement quand même, hein, il y a beaucoup de lui quand même. Il suffit tout simplement, voilà, vous pouvez jouer en basique, ça, c'est très reposant. La 3D, parce que c'est un jeu 3DS, faut quand même en parler un minimum. La 3D est très bonne, et je dirais même que j'ai du mal à jouer sans la 3D pour le coup, parce que du coup ça décolle la piste musicale des du fond et donc du combat qui se passe derrière ou du petit bonhomme qui marche. Et ça a tendance à vous permettre de vous concentrer un peu plus sur la musique, enfin sur la bande, que sur le truc de derrière. Et donc j'ai vraiment du mal à jouer sans 3D. Donc enfin un jeu sur 3DS où ça demande de jouer avec la 3D, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là.
OK.
Nickel.
Quelque chose à ajouter, messieurs?
Je pense que on est assez complet là.
Bah, dans tous les cas, ce qu'on a à dire, bon, voilà, c'est un jeu qui est vachement complet. En plus, c'est un jeu récent, n'est-ce pas, puisqu'il est sorti.
Il est sorti très exactement mercredi de la semaine dernière. Donc je ne sais plus exactement la date, mais ouais, il est sorti. On est en podcast, donc très rapidement, mercredi le 17 septembre.
Ah si, une dernière question avant que j'oublie. Mordwen, toi qui as fait le premier épisode, est-ce que ça te tenterait de faire celui-là?
Ah, j'ai pas fait le premier moi, mais du coup je suis vachement intéressé parce que j'ai l'impression qu'en fait le deuxième épisode c'est le premier mais en beaucoup mieux. Donc du coup je vais pas passer par la case premier et directement faire le second qui m'a l'air assez complet et particulièrement intéressant. Donc moi qui me demandais justement à quel jeu 3DS j'allais jouer en dehors de Smash Bros et Pokémon, bah c'est certainement un des jeux que je vais me faire cette année.
Ouais, oui, très très franchement, ça se dit peut-être pas, mais n'achetez plus le premier. Hein. Parce que c'est clairement son argument de vente, et c'est même dans son titre. Curtain Call, je crois que c'est notre le français, c'est le rappel. Voilà, toutes les musiques du premier sont dans le deuxième, donc achetez celui-là. En plus, il est complet. Il est légèrement plus beau, paraît-il. Et vous avez plus de 220 morceaux, que du FF, que du bon.
Non, moi, ça me va.
Eh bien, messieurs, nous sommes enfin arrivés au terme de ce podcast, n'est-ce pas?
Yep.
Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine, messieurs, dames. Bye bye à tous.
Salut, salut tout le monde.